Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du bulletin d'information de Radio Prague. Les principaux titres ce jeudi, la rentrée des classes en République tchèque s'accompagne de l'entrée en vigueur de la loi sur l'inclusion. Les services de renseignement russes et chinois s'activent en République tchèque. Et puis du football, la République tchèque a vaincu l'Arménie en match amical. Les grandes vacances sont bel et bien finies pour les Tchèques aussi. L'année scolaire a débuté ce jeudi dans les écoles maternelles, primaires et secondaires de tout le pays. Quelque 1,2 million d'élèves ont fait leur rentrée des classes, dont 115 000 en première, l'équivalent du cours préparatoire. Cette nouvelle année scolaire est marquée par l'entrée en vigueur de la loi sur l'inclusion des enfants défavorisés, soit pour des raisons de handicap physique, mental ou social, dans les écoles classiques ou encore par la scolarisation obligatoire en dernière année de maternelle. Si la tendance des années précédentes se poursuit, un écolier tchèque entrant à l'école primaire sur 100 redoublera cette année. C'est ce dont fait état un rapport réalisé par l'ONG Chloviek Vtisni. D'après ce document présenté ce jeudi, jour de la rentrée des classes, les enfants les plus menacés par l'échec scolaire sont ceux issus de familles où les parents sont les moins diplômés. L'ONG estime qu'un effort doit être fait sur l'éducation préscolaire pour prévenir les difficultés de ces élèves. Les services de renseignement russes et chinois ont été les plus actifs en République tchèque l'année dernière. Tandis que les espions chinois se sont efforcés d'infiltrer les structures étatiques afin de faire valoir les intérêts de leur pays dans les milieux politiques et économiques, les Russes, eux, ont mené essentiellement une guerre de l'information relative aux crises en Ukraine et en Syrie. Ces données ressortent du rapport annuel pour 2015, publié ce jeudi par le BIS, le service de contre-espionnage tchèque. On passe au sport et au football. L'attaquant Václav Kadlec est de retour au Sparta Prague après une saison passée au Danemark, au FC Midtjylland. L'international tchèque âgé de 24 ans a annoncé ce jeudi avoir signé un contrat de 4 ans avec le club pragois où il avait débuté sa carrière professionnelle après avoir été formé au Bohemians. D'après le tabloïd danois Extra Bladet, le club tchèque a dû débourser 2,7 millions d'euros pour se procurer les services du joueur. Si cette information est exacte, il s'agirait du transfert le plus cher de l'histoire du championnat tchèque. Karel Jarolím a vécu une première réussie dans ses nouvelles fonctions de sélectionneur de l'équipe de République tchèque de football. La représentante a battu l'Arménie sur le score de 3-0 en match amical mercredi soir à Mladá Boleslav en Bohême centrale. Les buts tchèques ont été inscrits par Ladislav Krejčí, par Václav Kadlec, dont nous venons de parler, et par Jan Kopitz. Cette performance est de bon augure avant la réception de l'Irlande du Nord dimanche soir à Prague, pour ce qui constituera l'entrée en matière des deux équipes dans la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On termine avec la météo. Le temps est bon, le ciel est bleu, chantait Isabelle Pierre, un morceau qui semble avoir été écrit pour la météo en Tchéquie de ce vendredi 2 septembre 2016, jour de la fête des Adela. Les températures sont agréables, de 23 à 27 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. Restez à notre écoute, s'il vous plaît, puisque notre programme continue.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Pierre pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chères auditrices et chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité et au lendemain de l'émission spéciale qui vous a été présentée pour le 80e anniversaire de Radio Prague, au sommaire de cette actualité figure donc tout d'abord la rentrée scolaire. Comme dans de nombreux autres pays en Europe, nous entendrons quels grands changements accompagnent cette rentrée. Nous évoquerons aussi une bien triste nouvelle, légende du sport tchèque, l'ancienne gymnaste Věra Čáslavská, héroïne des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, est décédée mardi soir. Nous reviendrons sur les grands moments d'une vie marquée aussi par son engagement politique. Et puis, comme tous les 15 jours le jeudi, la seconde moitié de l'émission sera réservée à la rubrique touristique. Cette fois, c'est en Bohême du Nord que nous vous emmènerons, et ce pour découvrir, paraît-il, un petit coin de paradis. Très bonne écoute de Radio Prague. Les vacances, les grandes vacances d'été sont finies. Des milliers d'enfants tchèques retrouvent ou ont retrouvé les bancs de l'école ce jeudi 1er septembre. Comme d'habitude, quelques nouveautés, dont notamment la hausse des salaires ou l'inclusion des enfants défavorisés, sont mises en place pour cette rentrée 2016. Mais cette nouvelle année scolaire est également marquée par une nouvelle baisse du nombre d'enfants qui ont découvert les classes pour la toute première fois. Plus de détails avec Alžbieta Hroškova.
L'année scolaire 2016-2017 a débuté ce jeudi dans la plupart des écoles primaires et secondaires en République tchèque. En totalité, un peu plus d'1,3 million enfants ont repris les classes à cette occasion. Il s'agissait également de la première rentrée pour quelque 115 500 enfants, soit 1 200 de moins par rapport à l'année dernière et encore moins par rapport à la rentrée 2014. Plusieurs politiciens tchèques se sont eux aussi rendus dans des établissements scolaires pour ce 1er septembre. Parmi eux, le président de la République, Miloš Zeman, en visite à l'école de Stochov près de Kladno en Bohême centrale, ou le premier ministre Bohuslav Sobotka, qui a été accueilli dans une école primaire à Jihlava, à la frontière tchéco-morave. La ministre de l'Éducation, Kateřina Valachová, dont la fille aînée vient de commencer sa scolarité obligatoire ce jeudi, a pour sa part rendu visite aux élèves d'un établissement de Brno en Moravie du Sud. Cette rentrée est également marqué par une hausse du budget du cabinet, c'est-à-dire plus d'argent par exemple pour les activités sportives des enfants, mais aussi pour les salaires des enseignants et des employés non pédagogiques dont la valorisation respectivement de 8 et de 5% a été approuvée après de longs mois de discussions au sein du gouvernement à grande pompe en juillet dernier. Pourtant, selon une récente étude de l'Institut économique Serge EI, 80% d'enseignants continueront à avoir un salaire inférieure à celui d'autres employés d'État ayant une formation universitaire, de nombreux d'entre eux ne touchant même pas un salaire moyen. La faible augmentation est par ailleurs contestée même par les enseignants, comme c'est le cas de Herman Kempfer d'une école primaire de Prague.
Et ces quelques centaines de couronnes que nous avons reçues ne se font même pas ressentir. Et j'ai 3 enfants et nous avons un crédit immobilier. Un salaire ne me suffit pas. Je travaille donc à temps complet. Et j'ai pris aussi quelques heures supplémentaires à l'école et j'ai encore un autre emploi. J'affiche des panneaux publicitaires. Pourtant, ce travail à l'école me plaît. Je pense que j'ai quelque chose à donner et que cela a du sens.
Baví, naplňuje. Myslím si, že mám co dát, že to má smysl.
C'est la raison pour laquelle la ministre a indiqué de vouloir augmenter les salaires des enseignants de 15% à partir de l'année 2017-2018 et de répéter cette même valorisation également au cours des 2 ans suivants pour arriver à 130% du salaire moyen. Cette mesure qui coûterait à l'État environ 45 milliards de kouons, près de 1,7 milliard d'euros, déplaît néanmoins au ministre des Finances, Andrej Babiš, qui, bien qu'il se dise favorable à une meilleure récompense des enseignants tchèques, ne considèrent pas des demandes de la ministre comme réelles. Il semble donc que ce débat ne soit pas fini et se poursuivra également dans les mois à venir. Enfin, d'autres nouveautés de cette année, la possibilité de l'instruction à domicile également pour les enfants du cycle secondaire ou la dernière année de maternelle obligatoire. La plus grande sensation représente néanmoins l'entrée en vigueur de la loi qui permet nouvellement aux élèves ayant des besoins spéciaux dans l'enseignement, qu'il s'agisse des enfants avec un handicap physique, mental ou social ou des enfants surdoués, de fréquenter des écoles normales tout en bénéficiant des mesures de soutien gratuites. Ce projet de l'éducation inclusive a suscité par le passé de nombreux débats dans la société tchèque et a trouvé beaucoup d'opposants. La ministre Kateřina Valachová poursuit.
V minulém školním roce se vedla velká společenská debata a výsledek je to,
Il y avait un grand débat autour de ce thème tout au long de l'année scolaire passée. Le résultat, le ministère de l'Éducation a eu raison quand il disait que cette possibilité ne concernerait que très peu d'enfants. Et vraiment, seulement 200 enfants, ou plutôt leurs parents, ont décidé de bénéficier de ce soutien. Je crois aussi que les enseignants, de même que les parents et les services scolaires de conseil, ont à présent beaucoup plus d'informations et que la situation est donc plus calme.
Tak školská poradenská zařízení i rodiče mají mnohem více informací a přece jenom situace se sklidnila.
Le ministère de l'Éducation a aussi préparé sur son site internet un service d'information sur le sujet et a lancé une équipe d'experts qui accompagnera davantage tous les concernés par ces changements. Car, comme l'a indiqué la ministre dans son discours pour sa deuxième rentrée en fonction, l'école ne devrait pas être seulement un lieu où on s'instruit. Elle devrait être aussi un lieu où on se réjouit et où on peut découvrir ensemble de nouvelles choses, se poser d'importantes questions et chercher des réponses.
Plus grande sportive tchèque de l'histoire, septuple championne olympique aux Jeux de Tokyo et de Mexico en 1964 et 1968, l'ancienne gymnaste Věra Čáslavská est morte mardi soir à Prague des suites d'une longue maladie. Elle était âgée de 74 ans. Mais au-delà de son palmarès exceptionnel, Věra Čáslavská restera avant tout une des grandes figures de cette année si particulière dans le monde qu'a été
1968.
Věra Čáslavská est de nouveau sur la plus haute marche du podium, seule incarnation de la beauté et de la perfection, symbole de la grandeur de l'homme. En octobre 1968, alors que Věra Čáslavská s'apprête à recevoir la médaille d'or du concours général individuel, l'envoyé spécial de la radio tchécoslovaque, particulièrement enthousiaste lors du traditionnel cérémonial, ne tarit pas d'éloges sur celle qui, au même titre que Bob Beamon, Tommy Smith, John Carlos ou encore Dick Fosbury en athlétisme, s'apprête à devenir une des grandes figures de jeu qui resteront tout aussi légendaires que l'année durant laquelle ils se tiennent. Deux mois après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, le symbole, il est vrai, est fort. Tandis que Věra Čáslavská se trouve tout en haut du podium, ce sont deux gymnastes soviétiques, Zinaïda Voronina et Natalia Kuchinskaya, qui montent sur les deuxième et troisième marches. Au pied d'une championne tchécoslovaque qui, avant de s'envoler pour le Mexique, avait été contrainte de se cacher et s'était promis de battre ses adversaires, représentante d'un pays qui, affirmait-elle, nous occupe et nous a humiliés. Sous le coup de l'émotion, le commentateur de la radio tchécoslovaque ne peut alors s'empêcher de chanter lui aussi l'hymne tchécoslovaque en direct et avant de s'excuser auprès des auditeurs de n'avoir pas pu se retenir. Comme les Japonais 4 ans plus tôt, les Mexicains tombent eux aussi sous le charme de cette jeune femme de l'Est aux formes élégantes, aux mouvements gracieux et aux longs cheveux blonds coiffés en chignon. Grande figure du printemps de Prague, écrasée par les chars et l'autorité de Moscou, Alexandra Dubček en personne lui envoie à son tour un télégramme de félicitations. Après Jacqueline Kennedy, la gymnaste tchèque, déjà élue meilleure sportive mondiale, est aussi, dit-on à l'époque, la deuxième femme la plus populaire au monde. À l'issue du concours général par équipe, où la Tchécoslovaquie se classe deuxième, devancée de seulement quelques dixièmes de points par l'Union soviétique, Věra Čáslavská, qui a décroché sa 11e médaille olympique, fait partager son bonheur, mais aussi d'une certaine forme de soulagement aux auditeurs de la radio.
No, já se to všechno měla stále na paměti, já se přiznám a to nás hrozně povzbuzovalo všechno.
Je me souviens de tout ce qui s'est passé durant ces Jeux, mais aussi de tout ce qui les a précédés. Le soutien du peuple tchécoslovaque a beaucoup compté pour moi et pour toute l'équipe. Je suis très heureuse des performances que nous avons réussies et heureuse d'avoir pu entendre résonner notre si bel hymne.
Je
La suite de la vie de Věra Čáslavská sera moins heureuse. Son engagement politique, avec notamment sa signature du manifeste des 2000 mots, une critique radicale du régime communiste publiée dans la presse qui condamnait l'ingérence soviétique en Tchécoslovaquie, lui vaut, comme pour Emil Zátopek à l'époque, de tomber dans l'oubli. Devenue entraîneur, la championne sera même échangée contre du charbon dans le cadre d'un échange avec le gouvernement mexicain. Il faudra attendre 1989, la révolution et l'arrivée au pouvoir de l'ancien dissident Václav Havel pour que Věra Čáslavská retrouve la lumière. Elle devient proche conseillère du nouveau président au château de Prague, puis occupe pendant plusieurs années les fonctions de présidente du comité olympique tchèque. Jusqu'à ce qu'un drame familial la plonge dans une profonde dépression et un long silence dont elle ne sortira que bien des années plus tard. Il a alors fallu attendre 2009 pour que Věra Čáslavská réapparaisse enfin en public. Depuis, et malgré un cancer du pancréas diagnostiqué en 2014, elle était redevenue l'ambassadrice du sport et la femme engagée qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. C'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie, plus précisément pour la seconde moitié de cette émission. Une seconde moitié consacrée, comme tous les 15 jours, le jeudi à la rubrique touristique. Et partons cette fois pour le nord du pays, plus précisément dans la région de Liberec, à la frontière tchéco-allemande. D'un point de vue historique, la commune de Jablonec v Podještědí est une des communes les plus remarquables et les plus anciennes du nord de la Bohême. Située au pied des Lužické hory, les montagnes de Lužice, le village de près de 3000 habitants est également étroitement lié à la Sainte Zdislava de Lemberg, surnommée la mère des pauvres. Cette rubrique touristique a été préparée par Denisa Tomanova.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Une des plus hautes cimes des monts de Lužice, la montagne Hvozd, haute de 750 mètres, également appelée Hochwald en allemand, se trouve précisément à la frontière tchéco-allemande. Dès la fin du XVIIIe siècle, les habitants de la région y avaient édifié un escalier jusqu'au sommet, où les randonneurs pouvaient admirer la vue panoramique surprenante sur le paysage boisé, tant sur la partie tchèque que sur la partie allemande. En 1834, une grande croix y a été érigée avec l'inscription dans les deux langues « Portez chacun le fardeau de l'autre ». Une première auberge y a été construite en 1853 du côté allemand, mais après un incendie qui l'a complètement détruite en 1877, une autre auberge y a vu le jour la même année, mais cette fois-ci du côté tchèque. Actuellement, ce sont deux restaurants qui accueillent les visiteurs assoiffés. En descendant le chemin sinueux du mont Hvozd qui mène jusqu'à la commune de Jablonec v Podještědí, nous nous arrêtons dans la commune de Hejmanice qui peut se vanter de la chapelle Saint-Antonine. Cette chapelle néogothique, datant de la première moitié du XIXe siècle, a été sauvée de son état délabré pour retrouver son aspect initial grâce à la rénovation au cours de ces dernières années. Même si l'intérieur de la chapelle reste très rustique, des jeunes mariés, toujours plus nombreux à y célébrer leur mariage, profitent d'une vue sur les pâturages pittoresques de dizaines de dindes. Après quelques kilomètres, nous arrivons devant le bâtiment en briques rouges qui abrite la gare de Jablonec v Podještědí ainsi que son musée. La chef de gare, Květa Slaba, a dévoilé quelques curiosités à propos de cet endroit.
La gare était très raffinée. Par le passé, on pouvait y trouver des salles d'attente de première, deuxième et troisième classe. On peut voir cet aménagement encore de nos jours. Nous nous en sommes rendus compte lorsque nous avons fêté les 100 ans de la fondation de la gare. Mes collègues qui étaient là avant moi ont conçu une petite exposition dans ce lieu pour l'appeler « L'histoire de la gare ».
Édifiée en 1900, la gare de Jablonec v Podještědí a été classée comme deuxième plus belle gare du pays en 2015. La chef de cette gare, Květa Slaba, a notamment dévoilé qu'elle collectionnait différentes casquettes de cheminots du monde entier, une passion qu'elle cultive depuis 1996. Cette collection, qui peut être également appréciée au musée de la gare, rassemble des casquettes de cheminots français, espagnols ou aussi turcs. Et comme le précise Květa Slaba elle-même, elle troque chaque casquette étrangère contre sa propre casquette rouge tchèque. À Jablonev-Podeštědí, le château de Nový Falkenburg fait partie des joyaux architecturaux, construit au XVIe siècle par le propriétaire du domaine Jindřich Berka de Dubé. Le château a par la suite été rénové dans un style baroque et sert actuellement de maison d'accueil pour enfants. Mais le point dominant de la commune de Jablonev reste la basilique Saint-Laurent et Sainte Zdislava, située dans un complexe d'un monastère dominicain. Cette œuvre architecturale baroque a été construite dans l'esprit de somptuosité romano-catholique avec en son milieu une coupole haute de plus de 40 mètres. Sainte Zdislava, en honneur de qui cette basilique a été construite, était une simple femme ayant vécu au XIIIe siècle et qui s'était engagée à offrir son aide aux plus nécessiteux en construisant non seulement des hôpitaux mais en étant complètement dévouée à cette cause. Guide à la basilique, Jaroslav Slabý a dévoilé.
À l'époque, les gens ont honoré Zdislava comme une sainte dès sa mort. Ils n'ont pas attendu une confirmation officielle qui a été finalement livrée au XXe siècle. Zdislava a été canonisée en 1995 par le pape Jean-Paul II. C'est d'ailleurs ce que l'on peut voir dans ses vitrines où l'on voit les lettres et les recueils relatifs à la canonisation. À l'intérieur, il y a tout ce que l'on sait sur la vie de Zdislava, tout y est inscrit, ainsi que l'évolution du culte et tous les actes miraculeux qui ont été établis. C'est la Congrégation pour les causes des saints qui donne sa recommandation sur la canonisation de la personne.
À l'intérieur de la basilique, des catacombes profondes de 3 étages font découvrir les lieux où se trouve le dernier lieu de repos de la Sainte Zdislava. Depuis 2002, Sainte Zdislava est aussi devenue la patronne de la région de Liberec. Une sœur de la basilique a notamment peint un tableau en son honneur. Jaroslav Slabý poursuit.
Sur ce tableau, on peut voir le mari de Zdislava et des flammes qui représentent le danger pour le royaume de Bohême. Zdislava devait alors s'occuper de sa famille du château, mais aussi de toute la propriété qui appartenait à son mari Havel. Ce domaine était extrêmement vaste, il allait de Jablonné à Jičín et jusqu'à Turnov. Sa bonté et son amour se sont répandus à travers les environs et de nombreux malades ou de pauvres gens touchés par les guerres.
Et notre destination finale, c'est le château Lemberg, situé à près de 3 km de la basilique. Sainte Zdislava y avait d'ailleurs notamment habité. Sur le chemin, il est possible de se rafraîchir à la source de Zdislava qui, selon la légende déjà mentionnée dans la chronique de Dalimil, guérissait les aveugles de la cécité. Le château de Lemberg a été reconstruit avec le temps dans un style renaissance et a également appartenu à la célèbre famille Galas au début du XVIIIe siècle. Šárka Procházková, guide au château de Lemberg, a révélé quels étaient les différents tours que les visiteurs peuvent faire.
Nous offrons 4 possibilités. Il y a un premier tour en compagnie d'un guide qui vous fait découvrir les salles historiques. Après, il y a un deuxième tour où l'on peut voir d'autres salles comme les cuisines ou le bureau. Ensuite, au deuxième étage du château, se trouve une exposition que l'on visite sans guide. On peut y voir différents objets historiques de style cubiste ou d'art nouveau que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. Il y a différents meubles, par exemple, qui avaient été confisqués après 1945 et on n'a pas trouvé d'autres endroits où les mettre.
Le maire de Jablonev, Podeštědí, Jiří Ril, a fait savoir qu'une nouvelle piste cyclable de 37 km, baptisée Sainte Zdislava, devait bientôt relier d'autres pistes comme celle de Varhané, qui passe par la ville de Nový Bor en provenance de Česká Lípa, ainsi que la piste cyclable internationale Odra Nisa, qui débute dans la commune de Nová Ves nad Nisou et se termine après plus de 550 km dans la ville d'Albeck, en Allemagne.
C'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui l'émission et le programme préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention. Merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française, bien entendu, de Radio Prague. Ahoy!